rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Trémé, c'est l'Afrique de l'Amérique. On mange, on fête, on danse et on meurt là-bas. Trémé, c'est un des plus vieux quartiers de la Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis. C'est aussi, dit-on, le plus ancien quartier afro-américain du pays et un lieu emblématique de cette culture afro-américaine. C'est dans cette Louisiane-là, marquée autant par le passage de l'ouragan Katrina que par l'esclavage, la ségrégation et la lutte pour les droits civiques, que nous emmène Fabienne Canor, à travers les yeux, les émotions, les souvenirs et les questionnements de son personnage principal, un Français d'origine camerounaise. L'écrivaine et réalisatrice examine les stigmates du passé, car l'avenir ne se construit jamais sans mémoire. Louisiane, de Fabienne Canor, est parue aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fabienne Canor.
Bonsoir Jean-François.
Alors ce livre, c'est donc le récit par une femme noire des Caraïbes du voyage d'un noir d'Afrique qui vit en Europe et qui part à la rencontre des noirs d'Amérique, qu'il s'agisse des noirs de Louisiane ou des noirs d'Haïti aussi, parce qu'il y a quelques incursions comme ça en Haïti. Au fond, ce livre, c'est une sorte de cheminement sur l'histoire des noirs à travers le monde.
Complètement, et d'ailleurs c'est étonnant parce que j'aurais pas pu l'écrire plus tôt. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce texte-là, ne serait-ce qu'à le commencer, hein, à le faire vivre, à lui insuffler toute son énergie là, parce qu'il y a tous ces mondes noirs en moi. Aujourd'hui, après des années de drive, alors Sénégal, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Bénin, d'où je reviens, je suis tombée d'avion là. Oui. Depuis quelques heures, je suis rentrée du Bénin. Et évidemment, les Caraïbes, surtout la Caraïbe française, la Martinique, la Guadeloupe, des sauts à Cuba, et puis un long trajet aussi aux États-Unis qui a commencé en 2013, si ma mémoire est bonne. J'ai commencé ce texte à peu près en 2014. Et c'est vrai que je me suis simplement rendu compte, c'est très 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 simple, hein. C'est que oui, je suis noire quand je suis en Martinique. On dit que je suis afro-descendante. On le dit aujourd'hui. Avant, on disait tout simplement martiniquaise, négropolitaine, puisque je suis née Lodbo. Je suis née en France métropolitaine, à Orléans.
Une fille du Bumidome, comme
voilà.
On disait. Donc le bureau des migrations entre l'outre-mer et la métropole.
Absolument, organisé par un organisme d'État. Donc mes parents ont fait comme tous les parents à cette époque. Ils ont pris le gros paquebot français. Ils ont mis une petite valise à l'intérieur. Ils ont mis leur rêve dans la valise. Ils ont fermé la valise. Ils ont gardé la clé dans la poche. Et ils ont enjambé l'eau. Et donc moi, je suis née de cette traversée déjà. Mais évidemment, je viendrai de Nigeria, de la région Kano. Donc finalement, j'avais ces mondes en moi, mais il fallait en faire l'expérience. Et je crois vraiment qu'avec Louisiane, il y a cette espèce de concentration de toutes ces cultures-là qui m'habitent aujourd'hui.
Mais qui étaient déjà dans tous vos livres précédents, parce que vous êtes, Fabienne Canor, une écrivaine et une cinéaste aussi du déplacement, de l'exode et de l'exil. En fait, toute votre œuvre tourne autour de ça.
Toute l'œuvre tourne autour de ça. D'ailleurs, le premier texte, qui s'appelait D'eau douce, parlait déjà des eaux qu'on traverse, de force ou de gré, qui parlait des migrations, orchestrées par le Bumidome, dont vous venez juste de parler. Le deuxième texte, qui a été écrit en partie au Bénin, parlait là de la grande traversée, la traite négrière, et puis ainsi de suite. Je crois tous les 3 ou 4 ans, j'éprouve vraiment le besoin de replonger dans une histoire qui a toujours à voir avec les anciens empires d'Afrique, avec les traversées organisées, et puis avec les migrations, puisque j'ai aussi parlé des migrations ouest-africaines.
Mais là, Pardon de vous couper, Fabienne Canor, mais c'est un besoin qui s'est imposé de lui-même, ou bien c'est une volonté. Il y a derrière votre écriture un vrai acte militant, une envie de faire œuvre d'histoire avec un H majuscule et minuscule.
Complètement marquer l'histoire, marquer une histoire qui a été tue, une histoire qui a été interdite, une histoire qui a été mise sous la table, sous les napperons, sous le lit. Mes parents, en fait, ne m'ont jamais appris d'où je venais. Tous les là d'où je venais, ils ne m'ont jamais transmis ça. Mes parents étaient sommés de s'intégrer. Donc il fallait cacher toutes nos identités et s'accrocher à l'identité française. Et je crois que justement ce besoin de parler, ce besoin de militer, ce besoin de partager ces paroles-là, vraiment de les rassembler dans un livre ou aussi sur scène parce que je performe également, ça me vient de ce silence parental. Et puis que j'ai gardé en moi, que j'ai totalement intégré puisqu'il a fallu quand même, finalement d'eau douce, 2004, pour commencer à sentir ces paroles-là. Comment, moi qui venais de ce foyer-là, j'allais faire pour m'emparer de la grande histoire et j'allais utiliser aussi les langues, pas simplement la langue du ce que je pourrais appeler le vaincu, c'est-à-dire la langue que m'ont transmise mes parents, à apprendre le bon français de France, mais faire vivre toutes ces cultures-là à travers des langues.
Donc un langage et une écriture métissée, Fabienne Canor, c'est-à-dire que tout ce côté intercontinental qu'on décrit là depuis le début de cette émission, on le retrouve également dans vos mots, dans vos lignes, dans chacun de vos paragraphes.
Oui, c'est un travail vraiment sur la langue. Ça, c'était important pour moi. Il ne s'agit pas simplement de raconter des histoires, parce que ça, je le fais d'ailleurs à travers aussi les films. Mmh. Mais c'était trouver la langue, quoi, la langue qui colporte toutes ces histoires-là. Trouver à la fois la langue du griot, à la fois la langue de celui qui a pas le temps parce que il est obligé de courir, hein, parce qu'il migre sans arrêt. À la fois la langue des silences, à la fois faire entendre les créoles, faire entendre au plus loin les langues africaines perdues, totalement jamais apprises, et faire aussi entendre la langue de la nature. Hein. Et je crois, et c'est ce qui change peut-être avec ce texte-là, je crois avoir peut-être, en tout cas j'ai essayé, de faire entendre la voix de la terre.
Et donc le texte est à l'image de ce que vous êtes vous, Fabienne Canor, et à l'image aussi de ce qu'est votre narrateur, qui se sent aussi un fils de l'exil, qui se sent aussi un étranger quelque part, et en même temps, il se sent aussi chez lui, quel que soit l'endroit où il est. C'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il se trouve aussi bien au Cameroun, en France ou en Louisiane. Est-ce qu'il est le même ?
Il n'est pas totalement le même, parce qu'en fait, finalement, son pacte avec la France a été un peu rompu. C'est-à-dire qu'il parle d'emblée du manque à être. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il n'a pas choisi d'aller en France. C'est sa maman qui a tout organisé pour lui, contre lui. Elle a enlevé, elle a arraché, elle a vraiment dessouché du pays, le Cameroun, sans le lui dire, pour échapper au père, pour échapper au pays. Elle a mis dans un coffre de la voiture, puis elle a mis dans l'avion, puis elle a mis dans une barre, l'une de ces barres où il n'y a plus l'espace pour rêver tellement elles sont hautes, ces barres, et étriquées. Et donc, il a vécu là sans avoir envie et besoin de vivre en France. Ça veut dire que le Cameroun est parti de lui-même. Alors, il est là, le Cameroun, il est dans une pièce qu'il essaie d'ouvrir et qu'il essaiera d'ouvrir, hein, tout au long de son séjour américain. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il ne sait pas habiter. Hein, c'est un personnage qui ne sait pas s'installer. Il n'est pas installé dans son corps. Il n'est pas installé même dans sa couleur, hein, contrairement à celui qu'il rencontre sur son passage, Zach, qui est afro-américain, militant. Lui, il est tout le temps sur la réserve, Nathan. Et puis, eh ben, il n'est pas installé non plus dans une vie de famille. C'est son autre drame.
Oui, c'est vrai que le Cameroun a de temps en temps quelques résurgences dans ses pensées, dans sa mémoire. Par exemple, il y a un moment où il traverse le lac de Pontchartrain sur un pont et il pense au Ngamenza, le fameux python mythique des Béti au Cameroun. Donc, on est tout temps en permanence, hein, dans cet aller-retour entre le passé et le présent et entre les différents continents qui constituent le personnage de votre narrateur. Alors je dis votre narrateur parce qu'il faut attendre la page 63 quand même pour savoir comment il s'appelle ce personnage. Alors, je ne sais pas si on peut dire son prénom. Oui,
on peut le dire.
Il s'appelle Nathan.
Oui, tout simplement.
Alors voilà, pourquoi est-ce qu'il faut attendre la page 63 pour savoir que c'est Nathan qui parle ?
Parce qu'il n'est pas habité. Parce que Nathan, en fait, quand il arrive, c'est pas Nathan. Quand il arrive dans le faubourg Trémé, il est l'Africain. Il est l'Africain aux yeux de tous ces Afro-Américains qui ne le regardent pas comme un Parisien, qui ne le regardent certainement pas comme un Noir de France, certainement pas comme un Français, qui ne le regardent pas non plus comme un Camerounais, puisqu'il le dit lui-même, je suis l'Africain d'un pays qu'il ne pourrait pas situer sur une carte. Mais il est l'Africain. Il est l'Afrique, finalement, hein, cette Afrique aussi qu'on retrouve à Trémé, mais qu'on retrouve pas complètement à Trémé, hein, cette Afrique aussi qui manque aujourd'hui, surtout à Trémé. Donc il ne s'appelle pas Nathan. Et puis alors, pour habiter votre nom, vous avez besoin de parents pour vous le donner. Et le drame, disais-je, de Nathan, c'est le fait qu'il n'habite pas dans sa famille. Il n'est finalement le fils de personne. Il est le fils d'une mère qu'il a arrachée de son pays, mais son père n'a plus voulu de lui. Et je crois que c'est ça, c'est ce manque d'identité aussi, hein, familiale. Il ne peut pas dire, il est venu au pays à un moment donné au Cameroun, quand il revient au Cameroun, après l'exil. Il ne vient pas voir son père, il ne vient pas visiter le Cameroun. Hein. Il vient tout simplement chercher son nom. Il vient chez son père, il toque à la porte de la villa, plusieurs pièces de son père, et il veut simplement lui dire « Papa, redonne-moi mon nom s'il te plaît ». Et donc si le prénom Nathan arrive tard, c'est qu'au fond, le papa ne lui donnera jamais son nom. Il repartira de la villa, il repartira du Cameroun sans finalement avoir l'identité du fils. Donc il n'est pas non plus père, puisqu'il n'est pas, il n'a pas encore enfanté, il n'a pas mis au monde, il n'a pas encore transmis Nathan, mais il n'est pas non plus l'héritier. Donc il est Nathan, page 63.
Page 63, effectivement, et ce n'est pas sur les traces de son père que se lance Nathan, mais sur les traces de son oncle, qui s'appelle Étienne John Wayne Marie-Pierre. Quel nom romanesque, Fabienne Canor. Comment êtes-vous arrivé à cette identité-là?
Bah, tout simplement en ouvrant mes oreilles, parce que c'est vrai, pour avoir vécu au Cameroun, j'ai vécu à Yaoundé plusieurs mois, peut-être même un an, j'entendais souvent des prénoms comme ça. Je me rappelle avoir rencontré notamment une comédienne, et la comédienne, en fait, s'appelait Deneuve. Son prénom, je parle pas de son nom. Et parce que sa mère adorait évidemment Catherine Deneuve. Donc elle lui avait donné, en fait, pour être sûre que ça allait pas être Catherine, tout simplement, elle lui avait donné le nom de Deneuve, qui était son prénom. Donc des noms comme ça, Étienne, John Wayne, Marie-Pierre, ce sont des noms, en fait, qui disent aussi cette espèce d'ouverture forcée aussi, presque ouverture coloniale, en fait, de ce Cameroun sur, l'Allemagne, sur l'Amérique, sur la France. Donc on a des noms comme ça. On a aussi au Cameroun des personnes qui sont capables de vous réciter Baudelaire de A à Z et qui ne connaissent pas les réalisateurs finalement camerounais d'aujourd'hui. Donc on a sans arrêt cette espèce de mise à distance en fait de l'identité camerounaise. Donc j'avais envie de faire venir ces noms particuliers dans ce roman.
Donc Étienne, John Wayne, Marie-Pierre, c'est donc de cet oncle et de cet homme que Nathan, votre narrateur, va faire son héros. Pour quelle raison il a besoin de, comme ça, d'une sorte de figure tutélaire pour le faire avancer dans sa quête identitaire?
Il a besoin de ça, puisqu'il n'a plus de père, parce qu'il est a priori un peu fâché avec sa mère, parce qu'il est en froid avec son frère également. Donc il a besoin d'un héros. Il a besoin d'une personne, il a besoin de quelqu'un à qui se raccrocher.
Mais on sait très peu de choses sur cette personne. On sait qu'il a quitté Douala, qu'il est allé aux États-Unis et donc singulièrement dans cet état du sud qu'est la Louisiane. Et pas grand-chose d'autre.
Non, c'est parce que c'est un aventurier. Parce que vous voyez dans le texte, en fait, je cite Jean Rouch, en fait, ces personnages de ce grand réalisateur Rouch, et ces personnages qui quittent, comme ça, un petit village, ils quittent un petit village ou une ville où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de femme, où il n'y a pas de situation, pour aller dans un quelque part, qui reste, en fait, là, pour le coup, John Wayne Marie-Pierre, lui, il a vraiment jambé l'eau, parce qu'il se retrouve aux États-Unis. Mais on sait que beaucoup de migrants, en fait, quittent peut-être le Cameroun pour aller dans un autre pays, peut-être le Bénin pour aller au Mali. Et donc, je ne parle pas de ces migrations qui sont en fait intra-africaines. Là, avec John Wayne, Marie-Pierre, on a la possibilité d'une longue migration. Mais pour autant, il y a encore les stigmates de cette migration qui n'est pas une migration, qui n'est pas un déplacement, qui est une stagnation en vérité. On part, on veut aller loin, on rêve de toutes sortes, on rêve du grand monde, du grand dehors, et en fait, on se retrouve coincé. On se retrouve coincé dans une terre où l'on doit travailler, où on n'a pas de papier. Ça veut dire parce que, précisément, cette identité de John Wayne Marie-Pierre, elle est tellement petite, elle tient en une ligne. Juste un prénom, en fait, un prénom qui est parti, qui a pris un bateau, on ne sait même plus exactement les dates, mais ça suffit à Nathan. C'est un prétexte pour son voyage. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm a to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Town.
Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times.
A change is gonna come. Sam Cooke dans VMDN sur RFI pour une émission autour de Louisiane, le nouveau livre de Fabienne Canor aux éditions Rivage. C'est la chanson culte de votre personnage principal, Nathan, et pas que la sienne d'ailleurs. On a passé cette chanson il n'y a pas très longtemps dans VMDN, en décembre dernier plus précisément, quand on évoquait le destin de Mohamed Ali avec l'écrivaine Judith Pérignon. Bon, c'est une chanson magnifique qui... Oui. Recèle vraiment tellement d'émotions, tellement de force. Aussi, c'est l'un des hymnes du mouvement des droits civiques. Et l'on découvre d'ailleurs au fil des pages le regard que Nathan porte sur ses cousins noirs d'Amérique. Un regard nourri d'ailleurs par ces figures tutélaires du combat contre la ségrégation, figures de musique. Aussi, on parlait de modèles tout à l'heure, oui. Il s'est nourri aussi de tout cela.
Il a lu tout ce qu'il fallait lire, en fait, quand on veut être militant et quand on n'a peut-être pas encore la terre pour militer. Il a lu Baldwin, évidemment, il a écouté les discours de Malcolm X, il a écouté Martin Luther King, il a prié fort pour qu'il y ait un changement, ce changement dont parle Sam Cooke dans cette chanson-là. Il y a cru, comme il dit. Il aurait tout donné pour être un noir américain, pour savoir danser comme Prince, Michael Jackson, pour porter les costumes, pour être fier, pour être debout, les épaules hautes, la tête bien droite et les chaussures qui brillent et peut-être $1 dans sa poche, juste ça. Mais sentir en soi que on est debout, on est une communauté debout, on a lutté pour avoir des droits et on les a obtenus. Donc il est arrivé avec cette idée-là en fait, hein, à 40 ans passés, et voilà ce Nathan tout Candide, si on peut dire. Il arrive à Trémée. Trémée, c'est pas rien. C'est le faubourg où se sont construites les communautés afro-américaines à New Orleans. Il arrive avec cette conviction qu'il est au bon endroit, que c'est là où on a été fort et on n'est pas tombé, hein, contrairement à ce qu'il sait en fait des autres Noirs, hein, les Noirs des Antilles, les Noirs de chez lui, du Cameroun. Et puis ben, finalement, tout va s'effriter. Sa vision va s'effriter parce qu'en fait, oui, il y a Trémé, mais ce Trémé qui est en pleine mutation, c'est pas du tout le changement dont parlait Sam Cooke, que prophétisait Cooke. C'est en fait un changement, c'est vers la mondialisation qu'on va, c'est vers l'ultra-capitalisme. C'est un faubourg en pleine reconstruction pour faire venir les touristes dont il est, finalement. Et je crois que c'est ça le drame, c'est d'avoir été nourri par les lectures, d'arriver fort de l'idée que en face de vous, vous avez une communauté debout, et de réaliser que non, c'est un monde marchand, c'est un monde qui s'effrite, hein, que Sam Cooke, on l'écoute même plus d'ailleurs, hein, finalement, et puis ben il est là avec toutes ses certitudes qui valent dingue.
Et vous racontez, Fabienne Canor, l'ensemble des rencontres humaines qui vont se succéder, hein, depuis le moment où votre personnage arrive dans cette ville de Trémé. Alors, il va aussi partir dans d'autres endroits de Louisiane. Et parmi les rencontres, le personnage, vous avez déjà cité son nom tout à l'heure, qui est peut-être le plus marquant. C'est un personnage extraordinaire parce que il s'appelle Zachary Ramsès II. Il faut l'appeler Zach, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, vous le présentez comme manœuvre, chauffeur, guide touristique, cuisinier, charpentier, pêcheur, mécano, cultivateur, serrurier. Que peut-on dire d'autre? Vous pouvez nous présenter Zach?
Oui, ouais. Zach. Alors, j'aime bien les sonorités aussi, parce que justement, quand on parlait de travailler sur la langue, j'aime bien Zach, parce qu'on dirait presque une interjection, Zach. Zach, ça fait presque Zach. Comme ça. Et c'est très musical. Donc, j'aimais bien que le Nathan, très poli, finalement, très courtois, avec son petit afro tassé sur la tête, rencontre ce Zach, qui part vraiment dans tous les sens, qui a un pick-up délabré, hein, on dirait presque une décharge publique, qui est en colère tellement en colère qu'il se bat contre lui-même, qui est rêveur, qui est incapable de garder trop longtemps un métier dans la main, incapable de garder une femme dans sa maison, qui a sa maman, qui a ses croyances, qui lui aussi, à sa manière, rêve encore de ce monde. Le monde va changer avec les Sam Cooke, avec les Malcolm X, parce qu'il a aussi cette culture-là, cette culture de résistance. Mais il ne vaut pas, et c'est ce que dit Nathan, il ne vaut pas un pharaon, évidemment, parce qu'il n'a rien, sa situation matérielle est vraiment très très... Il n'y a rien, en fait.
Il a un problème avec l'alcool aussi.
Il a un problème avec l'alcool, il a un problème, il n'est pas dans son temps, en fait, Zach. Ça va trop vite pour lui. Donc, la seule chose qu'il maîtrise, au fond, c'est le pick-up. Et j'ai aimé, en fait, construire cette amitié-là, parce que pour moi, c'était le décalage était énorme entre un Camerounais qui avait été forcé de migrer en France, qui était resté noir de France, à écouter tout ce que il faut faire pour être un bon noir de France, arriver aux États-Unis avec ses bagages culturels qui finalement pèsent un peu léger maintenant dans cette Amérique-là et qui rencontre son héros. Il est parti à la trace de Étienne, John Wayne, Marie-Pierre, mais finalement, il rencontre un mec comme ça dans la rue qui l'embarque en fait dans son aventure, qui l'embarque dans telle région, il ne connaît pas, il est assis. Vous voyez, c'est comme un enfant à ce moment-là, Nathan. Il a beaucoup à apprendre de Zach.
Il y a un rapport initiatique entre les deux
complètement.
Personnages.
Sans Zach, Nathan n'aurait pas pu découvrir finalement le secret, presque le secret de Trémé, que Trémé est vendu, que Trémé n'appartient plus à la communauté. Sans Nathan, Nathan n'aurait pas pu goûter à la bière locale, n'aurait pas pu tout bonnement s'asseoir à la table et puis comprendre que le rêve finalement de l'homme d'aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement avoir une belle femme, écouter de la musique et puis laisser passer la nuit. Donc il y a un rapport, Zach est décomplexé quand Nathan est complètement enfermé en fait dans sa mentalité. Et j'aime cette liberté, il va y avoir une émancipation. Mmh. Évidemment, Zach n'est pas Malcolm X, mais... il ouvre la porte de la liberté à Nathan, et ça c'est important.
Et il y a comme ça des petits moments qui sont très simples dans la vie quotidienne, mais qui sont aussi de vrais petits moments de grâce, et qui alternent avec des moments beaucoup plus durs, beaucoup plus violents, beaucoup plus difficiles à vivre, parce qu'on peut pas dire que toutes les rencontres de Nathan lui procurent un franc sentiment d'optimisme. Nous sommes page 52 de votre roman.
Dans le bus où je m'étais retrouvé deux fois, beaucoup dormaient, profitant d'avoir un siège à peu près propre, un coin tranquille pour achever ou commencer leur nuit. Dans le bus, certains fouillaient dans les pochons contenant un échantillon de linge, des médicaments sans emballage et des factures. Où descendraient-ils ? Où se rueraient-ils après qu'un car réfrigéré comme la morgue les aurait jetés sur une route pour grosse carrosserie ? Je m'étais senti mal à l'aise parmi eux. Un échec, cette dame chargée d'enfants et de produits de Family Dollar, dont le seul objectif était de décapsuler deux sodas sans s'en mettre plein les cuisses. Cette dame trop bombée pour boutonner son short qui, étonnée par mon accent, m'avait demandé, dans un anglais qui révélait l'absence de tout être financier valide, d'où je venais et pourquoi j'étais ici. Elle voulait dire dans ce trou, dans ce sud où il n'y a rien pour nous. J'avais baragouiné « good luck » en descendant, et raté la marche du trottoir, tant j'étais pressé de me retrouver hors de portée de ces pauvres que je ne traitais pas en frères. Je me gardais de lancer « What's up, bro ?» lorsque je voyais un homme de ma couleur. J'avais cessé de rêver et commençais à éprouver un soulagement inavouable à ne pas être eux, à ne pas être pris pour eux. Après avoir croisé la femme de Family Dollar, j'avais été en état de haine contre les noirs fauchés et tous les blancs du sud. Dans ma chambre, où j'étais revenu m'allonger, j'avais alors pensé, et Dieu comme j'avais eu honte de le penser si fort. Je peux être tous les noirs, sud-africains, namibiens, togolais, antillais, cubains, mais le pire du pire, c'est être nègre des États-Unis. C'est être potentiellement coupable et historiquement malheureux. Je ne veux pas vieillir en prison parce qu'on m'aura transformé en dealer, en batteur de femmes ou en grand vagabond. Je ne mérite pas de finir ignare et obèse.
On est loin de ces héros blacks qu'il adulait, de ces christs, de ces artistes afro-américains comme des christs. Hein, c'est l'expression que vous utilisez. Fabienne Canor, en fait, vivre à Trémé et dans ce coin de Louisiane, c'est tout sauf une vie enviable, en fait.
Oui, et là, on est à quelques semaines, en fait, de l'arrivée de Nathan. Donc, il a commencé à voir les choses comme elles sont. Il a commencé en fait à comprendre que le vernis qu'on lui avait vendu, que le chauffeur de taxi et surtout la France en fait, hein, lui avait vendu comme quoi Trémé c'est cool, que la New Orleans c'est la Big Easy. On dit la ville facile où tout est possible, où une bière, une femme, vous prenez ce que vous voulez prendre, hein, il suffit de quelques dollars. Il a compris qu'en fait non, c'était l'enfer, hein, qu'il y avait là dans cette Amérique-là une opportunité pour le malheur lorsqu'on est noir, lorsqu'on n'a pas l'œil bleu et voilà, le bon sang, hein. Il commence à le comprendre et ça c'est violent parce qu'en fait, au lieu de d'avoir de la compassion en fait pour ces noirs qui sont noirs tout autant que lui en fait, il commence à vouloir s'en distancier et c'est ça qui est vraiment douloureux, c'est qu'en fait ces histoires de finalement de discrimination, de ségrégation, de colonisation ont tellement en fait mis les communautés noires à dos d'autres communautés noires et c'est ce qu'on a dans ce passage.
Voilà et c'est vrai que c'est frappant parce que c'est vrai que nous de France, on dit bon bah les Noirs, les Afro-Américains, oui. Mais ça n'a aucun sens parce qu'en fait les Noirs, ben c'est tout sauf un groupe homogène.
Exactement. Et surtout dans cette Nouvelle-Orléans en fait, où on trouve et c'est pour ça que je tenais à faire une espèce de galerie de portraits. On trouve par exemple cette femme qui est logeuse, qui est créole, mais c'est une créole de couleur. Donc elle a acquis une bonne fortune, une bonne réputation aussi. Elle fait travailler ses gens. Hein, elle a toute une série de gens, dont Zach d'ailleurs, hein, des manœuvres. Qui travaille pour, d'ailleurs, pas d'argent pour elle. Elle est comme une reine, en fait, à Trémée, mais elle a la couleur de peau la même que celle de Nathan et que celle de Zach. Et à côté de cette femme-là, qui est puissante, eh bien, on trouve vraiment à l'autre bout, en fait, de la chaîne, on trouve des gens comme Zach qui n'ont rien. Et que peut-être la seule chose qu'ils vont avoir, c'est une expérience peut-être en prison. Ça, on en parle aussi. Hein. Il y a le spectre.
Elle est omniprésente.
Elle est omniprésente. Et ça, c'est vrai que, j'avoue, Jean-François, que j'aurais pas pu me rendre compte si je m'étais pas un tant soit peu installée à Trémée. C'est en y allant et en y restant surtout, pas simplement en y allant quelques mois et puis c'est terminé et je rentre à la maison pour écrire ce que j'avais à écrire, mais c'est aussi en fréquentant cette communauté-là, en comprenant qu'elle est beaucoup plus divisée qu'il n'en paraît lorsqu'on la regarde depuis la France ou depuis les Antilles, hein, d'ailleurs. C'est vraiment en causant, en fait, hein, comme on dit, avec les personnes, en vivant aussi dans ce faubourg Trémé moi-même, dans le même type de chambre, hein, qu'occupe Zach, que j'ai saisi tout cela, que j'ai vu passer alors toute la grande histoire, hein, vraiment l'histoire de l'esclavage, mais aussi l'histoire de la reconstruction et puis l'histoire de la ségrégation et après l'histoire aussi d'Obama. Je suis arrivée quand même au moment du règne d'Obama, au moment où justement bah, on pouvait écouter Sam Cooke, ressentir une joie dans le cœur et se dire « Ah ça y est, le changement, il est là !» Même si dans le temps obamien, on entendait déjà beaucoup dans la communauté dire « Ça n'a rien changé, ça va rien changer, nos frères, nos pères, nos fils sont encore en prison ». S'ils ne le sont pas, alors ils sont tuables. J'utilise vraiment cette expression-là. Être noir aux États-Unis, c'est aussi être tuable. Je parle de ça. Je parle de cette presque impossibilité pour beaucoup, en fait, d'avoir ne serait-ce que la paix, de vous lever le matin, d'aller faire ce que vous avez besoin de faire et d'être vivant à la fin de la journée.
Mais est-ce que ça signifie, Fabienne Canor, que la Louisiane, en un demi-siècle, depuis les Black Panthers jusqu'à Obama, n'a pas changé?
Elle n'a pas beaucoup changé. Et on le sent, en fait. Alors, en plus, il faut rajouter quand même que le roman se passe quelques 10 années après Katrina. Donc, il y a eu cet ouragan qui a finalement défenestré, défoncé les maisons de la ville, a expulsé en fait une bonne partie de la communauté africaine-américaine qui n'avait pas de maison et qui s'est retrouvée carrément à vivre en dehors de la Nouvelle-Orléans, parfois dans les project houses qu'on voit là partout où personne n'aimerait vivre. Et donc cet ouragan-là est passé comme pour finalement rappeler que bah, l'histoire, elle bouge pas. Qu'on est encore dans cette espèce de cycle, évidemment, de la violence, mais que la réparation n'a pas été faite, que les terres n'ont pas été redistribuées, que le pouvoir appartient aux mêmes. Et je crois vraiment que, surtout dans ce sud états-unien, il y a tout cela encore, ce qui fait aussi même parfois, c'est terrible à dire, mais presque un charme. Vous voyez les plantations, Jean-François, vous y allez, vous voyez les plantations. Et rien n'a changé. Bien sûr, elles ont été reconstruites, elles ont été rénovées, on y organise des mariages, vous voyez, comme oui. Au temps d'eux. Mais en fait, rien n'a changé. C'est un monde, et ça je le dis dans le texte, c'est un monde qui n'a pas été lavé.
Voilà, c'est un monde qui n'a pas été lavé. Alors c'est vrai qu'il y a Katrina, le spectre de Katrina qui continue de planer sur la Louisiane que vous nous décrivez. Il y a le spectre de la prison, on en parlait à l'instant. Et puis il y a aussi un autre nom qui plane comme ça d'un bout à l'autre de votre texte, parfois de façon très très subliminale, parfois au contraire de façon beaucoup plus précise. C'est William Faulkner, dont le regard qu'il portait sur les Noirs de Louisiane et singulièrement du delta du Mississippi vous a un petit peu intrigué, charmé, énervé peut-être parfois.
Énervé parfois dans certaines lectures à ne pas savoir qui ces Noirs étaient. Buté par exemple sur une ombre, l'ombre d'un homme ou d'une femme noire, généralement des nounous, personnes qui sont dans la maison, et ne pas savoir au fond ce que ces personnes avaient vécu, ce que ces personnes ressentaient. Ces personnes sont là dans tous les romans de Faulkner et elles sont puissamment là, même dans leur mutisme, dans leur impuissance, elles sont là. Et aussi pour faire prendre conscience généralement aux personnages de Faulkner, il y a une culpabilité que vous ne ressentez pas mais qui est là. Il y a donc une possibilité plus tard, en tout cas, de réparation, de réclamation. J'aime beaucoup l'œuvre de Faulkner. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de Zach dans les romans de Faulkner. Et c'est normal, Zach, c'est un post-faulknerien. Il est après, en fait, toutes ces plantations-là. C'est un produit aussi. Zach, si vous voulez, c'est presque le petit-fils de cette femme qui fait à manger, qui change les couches ou le linge des enfants blancs des romans de Faulkner. Il est là avec son impuissance, mais il est là aussi avec sa colère, et il est là aussi avec sa verve. Il parle, Zach, il n'arrête pas de parler tout au long du roman.
Il y a aussi, si on est obligé de catégoriser, j'aime pas trop ça, mais c'est vrai qu'on est obligé parce que vous nous brossez une sorte de portrait de l'Amérique noire, de la Louisiane d'aujourd'hui, eu égard évidemment aux décennies passées. Il y a aussi ce qu'on appelle les passés blancs. Alors expliquez-nous de qui il s'agit, Fabienne Keller. Ça, c'est assez mystérieux. Je ne connaissais pas du tout l'expression.
Non, c'est très étrange. En fait, c'est vraiment une spécialité de la Louisiane. On les trouve, quand on les trouve, en Louisiane. Parce qu'en fait, être passé blanc, c'est être noir, mais se faire passer pour blanc. On en retrouve dans les romans de Faulkner, dans le roman Lumière d'août. On trouve, je crois que le héros s'appelle Christmas, il me semble. Il est blanc. Donc, à le voir, on pense qu'il est blanc. Mais quand on regarde, quand on secoue les branches de l'arbre généalogique, on réalise qu'en fait, il est noir. Mais évidemment, il ne le dit pas, pour toutes les raisons qu'on peut supposer. Les passés blancs, ça a été la même chose. Ce sont donc des noirs qui, parce qu'ils avaient une peau tellement pâle, et parce qu'ils pouvaient passer pour blanc, ils se sont fait passer pour blanc pour s'en sortir, Pas parce qu'ils aimaient la couleur blanche particulièrement, mais c'est simplement parce qu'ils ont compris que s'ils restent noirs, alors cette opportunité dont je parlais tantôt, cette opportunité pour le malheur, pour être tué là d'un coup, d'un seul, allait leur tomber dessus. Donc c'est une stratégie en fait. Et on la trouve en Louisiane parce qu'il y a eu tellement de mélanges. On sait qu'il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, il y a eu tous ces mondes-là qui se sont jetés sur la Louisiane, qui l'ont vendu, racheté, revendu en fait. Donc il y a eu des croisements intenses en Louisiane. Et il est possible aujourd'hui de discuter avec une personne qui vous garantit qu'elle est noire et vous la regardez, vous dites non en fait, la couleur est blanche, je suis avec un blanc. Mais tout en fait, quand vous creusez un peu, montre que cette personne est noire. Donc c'est vraiment une spécialité. Et c'est devenu, alors aujourd'hui, parce que je me disais, c'est quelque chose qui appartient au passé, au vieux monde, être un passé blanc, mais au fond, pas du tout. On se rend compte que le privilège dû au fait que vous avez une couleur pâle compte parfois aussi aux États-Unis.
Thank you. I'm the Big Chief of Congo Square et le saxophone de Donald Harrison Jr. dans VMDN sur RFI, un morceau qui revient à plusieurs reprises dans votre roman Fabienne Canor, notamment lorsqu'il est joué par le trompettiste Christian Scott, qui est le neveu de Donald Harrison Jr. et que Nathan va rencontrer au Blue Dragon, donc un club de la ville de Baton Rouge. Christian Scott, qui est un personnage réel, pourquoi mettre un personnage réel dans votre fiction?
Parce qu'il m'a fait rêver, Jean-François, ce personnage-là. Tout simplement, c'est vrai que je l'ai rencontré, pas personnellement, mais j'ai rencontré sa musique. Moi, j'arrivais avec justement les vieux tubes. Alors, j'arrivais avec les Sam Cooke, j'arrivais avec toute l'œuvre de Coltrane, j'arrivais évidemment avec Nina Simone, qui est aussi dans le texte. Mmh. Et puis, je rencontre un jazz qui est un jazz étrange, qui est un jazz qu'il appelle, Christian Scott, le jazz stretché. Donc le jazz, voilà ma main qui est à gauche, voilà mon autre main qui est à droite, il a tiré le jazz. Il a tellement tiré pour en faire peut-être un oiseau, c'est même plus pour en faire de la musique. Et j'ai trouvé ça, mais puissant. Je l'ai vu sur scène, avec une qualité, justement cette puissance-là extraordinaire, à la fois, il était... Christian Scott est noir, mais aussi native américain. C'est un Indien d'Amérique, c'est un noir et c'est un Américain. Donc, il est tous ces mélanges-là. Il est tout Trémé. Pour moi, il incarne vraiment Trémé. Et puis aussi, de l'avoir vu lors du Mardi Gras, le carnaval où tout le monde va. C'est vraiment le gros événement en février, mars. Et donc, il était là, complètement méconnaissable. Il est tout jeune. Il a peut-être moins de 30 ans. Et alors, soudain, de le voir avec des plumes, le voir juste les yeux, apercevoir, à croire, le reconnaître en fait dans la rue, j'ai trouvé ça justement très stretché en fait comme personnage. Et j'aime beaucoup en fait l'idée, parce qu'il y a un travail de terrain dans ce texte Louisiane, j'aime l'idée d'avoir des indices, d'avoir des marqueurs du réel et de pouvoir les réintroduire dans le roman, parce que ça lui donne à ce roman une assise. Alors oui, on ne pourra pas trouver The Big Chief.
Parce que j'ai cherché la version de Christian Scott pour la passer dans l'émission et je n'ai pas trouvé.
Non, introuvable.
Mais peut-être que vous allez lui donner l'idée de l'enregistrer.
Voilà, je pense que ce serait presque un livre à lui dédicacer, mais c'est vrai que non, on ne trouve pas ce morceau-là. On ne trouve pas non plus le serpent. Je décris à un moment donné un serpent autour de son bras. Mais c'était l'idée en fait aussi de rendre le végétal à l'humain. Et ça, pour moi, c'était important quand je disais tantôt de faire résonner les langues de la terre louisianaise. C'est forcément une terre bourrée de serpents, surtout quand il pleut. Et donc, imaginez que ce personnage-là, qui était à la fois noir, à la fois native américaine, à la fois américain, puisse avoir un serpent qui n'est, je vous rassure tout de suite, qu'un faux serpent. En fait, c'est un serpent en or. Mais le fait qu'il ait tant stretché son jazz et le fait de souffler dans son instrument, c'est comme si le serpent se mettait à vivre. Donc il y a aussi, quand je stretch mon roman, en fait, cette idée-là aussi de pouvoir introduire un peu, pas du magique, mais quelque chose de cet ordre-là, où les arbres parlent, où les serpents sortent entre les lignes, et où les hommes peuvent s'appeler John Wayne, Marie-Pierre.
Les Brahmini, ce sont des serpents aussi?
Des serpents, voilà, oui. Des petits serpents que vous
serpents
allez pouvoir,
fouisseurs.
Voilà, qu'on peut rencontrer à n'importe quel moment quand on prend sa douche ou quand on va aux toilettes. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, moi, quand j'étais à Trémé, et quand il avait plu très 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 fort, on me disait toujours, fais attention le soir, munis-toi d'une lampe, et puis regarde toujours où tu mets les pieds. Donc je n'ai pas rencontré ces petits serpents-là, mais il est évident, en fait, que tous ces serpents-là, les pluies, je ne vous en parle même pas, parce que on voit souvent des images de Trémé.
On a l'image de Louisiane, on a l'image des bayous, ce côté très humide,
exactement.
Très, très terrien, et en même temps très... très marécageux.
Complètement, ça vient, mais alors généralement, justement, on a l'idée d'eau croupie. Mais on oublie, en fait, que, évidemment, l'eau à Trémé, vient de la terre et vient du ciel. Donc, il y a cette idée de rencontre des eaux, c'est-à-dire que l'eau monte plus vite que n'importe quoi, en fait,
en Louisiane. Avec les avalas,
avec les avalas.
Voilà, c'est un mot que j'ai appris grâce à vous.
Voilà, ces torrents qui font que, finalement, la terre, on sait plus où mettre les pieds. Et j'aime cette idée-là aussi, que plus on va s'enfoncer, en fait, dans le texte, moins on va pouvoir en fait se reposer sur les certitudes, exactement comme ce qu'il arrive à Nathan, qui arrive avec un schéma préconçu, avec d'ailleurs il arrive avec des guides sur la Louisiane, et plus ça va, moins ça va. plus ça va, moins ça va, jusqu'à la fin, que non, je ne dévoilerai pas.
Bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors, il y a un chapitre dans lequel vous nous faites visiter quasiment en touriste une plantation qui est d'ailleurs transformée en site touristique, avec une maison qui a servi de décor pour le cinéma, le film de Tarantino, Django Unchained, par exemple. La mémoire de l'esclavage, comment est-ce qu'elle est mise en scène, Fabienne Calvert, dans cette Louisiane que vous avez racontée ?
Elle est mise en scène dès le départ avec un monologue. Avec ce monologue que je ne voulais pas vraiment mettre en place dans le texte, c'est-à-dire lui donner évidemment,
il est écrit en italique, voilà, une typographie différente.
Complètement, il n'y a quasiment pas de points dans ce monologue-là. C'est un monologue en deux parties. Il y a évidemment l'ouverture. Dès qu'on entre dans ce texte, on entre bizarrement, on entre avec une voix. On ne sait pas si c'est la voix d'un homme, la voix d'une femme, la voix d'un animal, la voix d'un humain. On ne sait pas depuis quelle terre cette chose-là s'exprime, mais quand même on ressent une violence dès le départ. On sent le feu, l'odeur du feu, on entend un coup de pétoir ou de revolver, donc ça pourrait se passer dans le vieux monde de l'esclavage ou aujourd'hui avec les brutalités policières. Et puis le texte, l'autre texte commence. Et puis, enfin, on retrouve le monologue. Et là, il y a quelque chose qui s'explique. Et les deux, c'est-à-dire le texte principal et ce monologue-là, conversent ensemble, dansent ensemble. Et pour moi, c'était important, en fait, de faire entendre ces voix du passé qui ne sont pas passées. Elles ne sont pas passées, ces voix des esclaves, parce qu'on ne les a pas écoutées.
Et puis un mot pour terminer sur l'épigraphe que vous avez choisi, c'est une phrase de Frantz Fanon, « Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant ».
L'enfance, effectivement, l'enfance de Nathan, qui est une enfance abîmée, qui est en fait un homme abîmé, en fait un adulte abîmé, et aussi bien l'enfance de la relation. C'était aussi pouvoir parler de cette relation-là, comment dès le départ, avec cette rencontre forcée, avec ces discriminations, avec ces nabots, ces fers que certains d'entre nous ont portés, comment en fait cette enfance-là a abîmé la relation que nous sommes en train de réparer en ce moment.
Voilà une phrase extraite de Peau noire, masque blanc, donc de Frantz Fanon. Merci beaucoup, Fabienne Canner, d'être venue nous voir. Louisiane, je le rappelle, est parue aux éditions Rivage, un livre que trois d'entre vous vont pouvoir gagner en répondant à la question du jour. Alors soyez attentifs, car la question la voici. Comment s'appelle le trompettiste dans le livre, un des personnages réels de votre récit, Fabienne Canner? Réponse en message privé, évidemment, à partir de la page Facebook de VMDN. Et félicitations aux gagnants du livre d'Abdelila Laloui, qui était dans l'émission vendredi dernier. Il s'agit de Sarah Rodriguez de la Garenne-Colombe en région parisienne, de Daniel Sossou qui vit à Godomé au Bénin et d'Amadou Tob au Sénégal. Merci à tous pour votre participation. La bonne réponse à la question de vendredi dernier était Amélie Nothomb.
Vous m'en direz des nouvelles.
Est-ce que le Trianon est là?
Sur RFI.
Après trois semaines de concerts rassemblant à Paris des artistes du monde entier, le festival Au fil des voix s'est clôturé ce week-end avec le show du mythique duo de hip-hop sénégalais Dahara Didji Family. Un reportage d'Hortense Vol pour VMDN.
Don Gaudi et Fada Freddy fêtaient vendredi dernier au Trianon la sortie de leur nouvel album, Yama Télé. Et si ce sixième opus privilégie l'utilisation de machines, quelques heures avant de monter sur scène, Don Gaudi nous l'avait assuré. Après 25 ans de carrière, Dahara Didji Family est toujours un groupe de live.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui jouent avec nous sur scène, ils ont accompagné l'enregistrement de l'album. Que ça soit au niveau percu, au niveau guitare, etc., même voix, ils ont accompagné vraiment la construction de cet album, donc ils ont ça dans leur ADN, quoi, entre guillemets. Et l'essentiel pour nous, en tout cas, c'est l'interactivité qu'on aura avec le public, parce qu'au final, c'est ça, un concert, c'est pas seulement venir chanter, mais c'est partager avec le public, donc on est prêt pour ça. Et Yama Télé, ça, l'album sonne bien, parce qu'on a eu à faire déjà une date et c'était incroyable. Il y a des titres comme Ghetto. J'étais surpris de voir le public reprendre les refrains après Fada. Je me dis waouh, ça veut dire que ça, voilà, les gens ils répondent à ça et c'est ça le plus important en fait sur scène.
Ça c'est mon ghetto, 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 ça c'est mon coin. Quand il fait du béton, 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 n'amour noir. Pas de retour, 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 tout que tu joues. Pas de y'a pas de soin, pas de y'a pas de soin.
à coups de rythmes traditionnels gonflés de trap et de lyrics qui prônent la nécessité d'être fier de son identité, Daraji Family entend bien reconnecter l'Afrique de l'Ouest au reste du continent et la jeunesse à son histoire. Clin d'œil à la série télévisée sud-africaine qui a bercé leur adolescence, le morceau Shaka Zulu, qui en appelle à l'unité du continent, est né de leur rencontre avec le beatmaker congolais Kratos. Une session d'enregistrement improvisée lors de leur passage en juin 2018 à Kinshasa pour le festival Jazz Kif, que nous racontent Don Godi et Fada Freddy.
On n'a rien calculé, franchement, on est venu, le studio était collé à un restaurant, il y avait vraiment du boucan autour. Ça a été une ambiance de malade et on a et d'ailleurs le morceau, même quand on a regroupé tous les sons de l'album pour finaliser à Paris, on se disait qu'on allait peut-être réenregistrer des voix, des choses, et Fada il a dit on touche à rien, on laisse comme ça.
L'instinct de survie, je lui ai juste donné les directives et il a composé le morceau comme si c'était la dernière chose qu'on allait faire avant de crever. C'est l'énergie du feu et moi j'aime bien ça.
Salut, salut, c'est Fada Freddy.
Salut, salut, c'est Don Godi.
Nous sommes les Daraji Family. Sur, vous m'en direz de nouvelles.
RFI, Sénégal, Tibir, Kirby.
Bien décidés à modeler le futur en se faisant les gardiens de leur culture, les deux ambassadeurs de la scène hip-hop sénégalaise frottent les traditions mandingues et wolof aux univers 2.0 de Kinshasa, Luanda, Lagos ou Accra. Résultat, un projet panafricain conscient et novateur qui a conquis le public.
C'est toujours dans leur ligne, en fait, on va dire, parce que c'est toujours un groupe qui est engagé, notamment dans la lutte contre la corruption, la malgouvernance, donc voilà. Donc on a grandi avec le groupe Daraji et vive Daraji. Et on a passé une excellente soirée. C'est le meilleur groupe d'Afrique, on va dire.
Prochain concert en France de Daraji Family le 25 avril au Rocher de Palmaire, à ce nom près de Bordeaux, avant les festivals Africa Jar et No Logo cet été.
Reportage d'Hortense Vol dans VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. Demain, le chanteur et musicien congolais Fally Ipupa avec Chantal Leroux dans le cadre de la grande journée spéciale que lui consacre RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.